merci à tous, merci de venir, merci de participer au territoire connecté de l'ARCEP. Et donc nous reprenons avec la séquence mobile. Donc il est 11h15 et nous avons jusqu'à 12h30. Alors la séquence mobile aura un thème un peu particulier cette année, c'est « Quels besoins pour la couverture mobile de demain ?» Alors nous démarrons par une présentation par Franck Tarrier, directeur mobile et innovation. Franck, je te propose de venir nous rejoindre. Cette présentation sera suivie d'une table ronde et, sur ce thème qui sera suivie d'une séquence qui vous donnera l'opportunité de poser toutes vos questions aux quatre intervenants. Je vois qu'il y a le dernier qui vient de s'installer. Allez, installez-vous. Et je ne mets pas la pression au dernier arrivant. Non, mais Saïda, c'est toi, installe-toi où tu veux. Hein. Bon, allez, plus sérieusement, Franck, on t'écoute. Et voilà, nous sommes tout ouïes.
Bonjour à toutes et à tous. Merci, Zacharia.
La lumière, voilà.
Merci. Je commencerai cette présentation par un bref rappel de l'état de la connectivité mobile aujourd'hui, ainsi que des principales actions qui sont menées par l'ARCEP dans ce domaine. Donc pour commencer, quelques chiffres, sachant que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble des données sur la connectivité mobile que nous actualisons chaque trimestre, et d'ailleurs les derniers chiffres ont été publiés jeudi dernier. Alors en résumé, le déploiement des réseaux mobiles continue. La quasi-totalité des réseaux mobiles sont aujourd'hui en 4G et la modernisation des réseaux mobiles se poursuit avec la 5G qui avance avec un rythme assez soutenu. En parallèle de cette modernisation technologique des réseaux, la couverture continue de s'étendre, notamment grâce au New Deal mobile et dans les zones rurales. Puisque, en particulier avec le dispositif de couverture ciblée du New Deal, plus de 3800 sites ont aujourd'hui été mis en service en métropole dans le cadre de ce dispositif. Donc ces mises en service de sites contribuent à accroître la couverture des réseaux mobiles, et aujourd'hui nous en sommes à plus de 99,7% de la population qui bénéficie d'une bonne couverture. Cette augmentation de la couverture des réseaux mobiles, elle se poursuit. En parallèle de cela, on peut noter que la qualité de service reste bonne, malgré un trafic de données qui est sans cesse croissant. Nos enquêtes annuelles le montrent. On voit une tendance à l'amélioration générale de la qualité de service sur les différents indicateurs. Cette amélioration, elle est visible sur l'ensemble des zones, les zones denses, les zones intermédiaires, les zones rurales. Elle met aussi en évidence des écarts entre ces zones qui subsistent, bien que la qualité continue d'augmenter pour chacune des zones. Je continue la présentation avec quelques éléments d'actualité très rapides sur l'action de l'ARCEP dans le domaine des réseaux mobiles. Alors premièrement, pour commencer, un focus sur l'outre-mer. L'ARCEP vient d'achever une assez longue procédure de réattribution et d'attribution de nouvelles fréquences dans les territoires d'outre-mer. En particulier, les fréquences qui permettent le lancement de la 5G ont désormais été attribuées dans l'ensemble des territoires. Un ensemble de fréquences qui arrivaient à échéance cette année devaient être réattribuées et cela a été fait. Ces procédures, au-delà de l'intérêt pour les opérateurs mobiles de disposer des fréquences pour opérer les réseaux mobiles, c'est, au-delà de cela, ces attributions ont aussi été l'occasion de mettre de nouvelles obligations d'aménagement numérique du territoire. En particulier pour la couverture des axes routiers, pour la couverture de points d'intérêt qui ont été définis en concertation avec les collectivités territoriales, ou encore pour la couverture de la population. Deuxième sujet que je voulais pointer, et là on revient sur la métropole, et plus particulièrement au sujet des réseaux mobiles locaux pour les usages professionnels, l'ARCEP poursuit ses travaux à ce sujet. Vous pouvez retrouver ici sur la carte l'ensemble des expérimentations qui sont aujourd'hui autorisées en métropole de réseaux mobiles locaux à usage professionnel. Les travaux de l'ARCEP se poursuivent sur la mise en place d'un cadre pérenne d'attribution, donc il y a vocation à permettre la délivrance d'autorisation pour une durée plus longue, pour une exploitation commerciale des fréquences. Des modalités d'attribution ont été mises en consultation publique en vue d'un lancement du guichet avant la fin de cette année, lorsque la décision européenne d'harmonisation de la bande 3842 aura été adoptée. Autre sujet, et cela a été mentionné lors de l'introduction par notre présidente, l'ARCEP a mis en place un observatoire de l'extinction de la 2G, 3G à travers la mesure trimestrielle du nombre de cartes SIM qui reste aujourd'hui utilisée dans des terminaux non compatibles avec la 4G ou la 5G. Donc cet observatoire sera actualisé tous les trimestres. En parallèle, l'ARCEP a mis en ligne sur son site internet différents éléments d'information à destination des utilisateurs en distinguant à la fois les utilisateurs grand public et professionnels. Et enfin, dernier point sur lequel je voulais également attirer votre attention avant de passer à la séquence sur la connectivité de demain et d'introduire ce sujet par quelques propos, je voulais attirer votre attention sur le lancement de la nouvelle version de mon réseau mobile. Et je vais laisser la parole à ce sujet à Noé Faure, qui est adjoint à la chef d'unité couverture et investissement mobile de l'ARCEP.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureux de monter à cette tribune aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version de Mon Réseau Mobile que nous avons mise en ligne cet été. Cette nouvelle version, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, et en particulier un travail qui a été mené avec les collectivités territoriales, sans qui, je crois, cette nouvelle version n'aurait pas été du tout la même. Alors justement, je voulais revenir sur certains épisodes de ce projet. Lorsqu'on l'a débuté, on avait souhaité donner la parole à nos utilisateurs pour qu'ils nous expliquent par eux-mêmes ce dont ils auraient besoin dans la nouvelle version de ce site. Et je me rappelle qu'une des craintes que j'avais eues à l'époque, c'était que ces ateliers mobilisent assez peu ou uniquement des profils très experts. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Beaucoup d'utilisateurs s'étaient mobilisés, ceux qui n'avaient pas pu s'en étaient excusés. Et surtout, ces utilisateurs arrivaient avec des idées, et souvent de très bonnes idées. Alors, nécessairement, les idées que portaient, par exemple, les associations de consommateurs n'étaient pas forcément les mêmes que celles que portaient les représentants de collectivités. Mais dans le fond, ce n'était pas vraiment grave, puisque les unes comme les autres étaient parfaitement légitimes, et c'était notre rôle à nous, en tant qu'ARCEP, ingénieurs, cartographes, de faire en sorte de proposer une nouvelle version qui puisse concilier ces différentes attentes. Donc on était très contents, on avait plein de très bonnes idées à mettre en place, mais on restait aussi lucides sur le fait que ce type de projet informatique prend du temps, parfois beaucoup de temps, et on voulait maintenir, mobiliser nos utilisateurs pour qu'ils continuent à nous guider dans la marche à suivre. Donc l'astuce qu'on a trouvée pour aller à l'encontre de la marche du temps et maintenir éveillé l'intérêt de nos utilisateurs, ça a été de rendre des comptes régulièrement, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer à travers la frise qui se trouve à droite de cette slide. Donc, dans un premier temps, nous avions créé des maquettes, des interfaces figées qui ont permis aux utilisateurs de s'immerger un petit peu dans ce que nous étions en train de conceptualiser. On a recueilli des premiers retours sur cette base, suite à quoi on a fait la démonstration d'une version alpha dont on n'était pas encore complètement satisfait. Ensuite, on a mis en place une version bêta qu'on a ouverte en accès libre, c'est-à-dire que tout le monde pouvait y accéder, dont on était déjà un tout petit peu plus satisfait. Et cet été, donc, comme je le disais, une version stable et complète a définitivement remplacé l'ancienne version. Alors, étant donné le temps qui m'est accordé, je ne pourrais pas faire une démonstration exhaustive de l'ensemble des fonctionnalités de l'application, mais je tenais, étant donné le sujet de cet événement, à revenir sur au moins trois fonctionnalités qui sont directement issues d'idées ou de besoins qu'avaient formulés les collectivités. Ce serait une sorte de top 3, si on veut. Donc la première, ce sont les cartes de couverture par nombre d'opérateurs. Les collectivités nous avaient dit, c'est très bien pour nos habitants qu'ils puissent consulter la couverture de leurs opérateurs, ils en sont contents, mais ce qui serait important pour nous, ce serait de pouvoir visualiser les endroits où aucun opérateur ne propose de la très bonne couverture, puis les endroits où il y en a un seul, les endroits où il y en a deux, etc. Donc c'est ce qu'on a mis en place à travers des cartes qui apparaissent en violet. Lorsque la zone n'est pas colorisée, ça signifie simplement qu'aucun opérateur ne propose de la très bonne couverture. Et plus la zone est contrastée, plus il y a d'opérateurs en présence. La seconde idée qui nous avait été demandée par les collectivités, c'est la possibilité de pouvoir superposer et croiser un ensemble de données. Alors, en réalité, les collectivités ont une maîtrise de la donnée, et ça rejoint ce qu'évoquait la table ronde précédente, qui est très variable. Certaines sont très expertes, ont en interne des géomaticiens, des data analystes de talent qui dissèquent notre open data tous les jours ou presque. Et d'autres sont beaucoup moins dotées pour des raisons qui peuvent être très variables, rarement l'envie, souvent les moyens ou même le recrutement. Et ces collectivités en particulier souhaitaient avoir à leur disposition un outil quasiment semi-professionnel leur permettant de croiser un ensemble de données. Donc ça a été un petit peu plus délicat à mettre en place techniquement, mais on a réussi à le faire à travers un menu dédié, et ça permet de superposer l'ensemble des données qui se trouvent sur le site, et on voit que certaines données font particulièrement de sens, donc notamment la position des antennes, et ici le niveau de couverture qui est proposé par l'opérateur. Donc on voit qu'il y a une sorte de cohérence spatiale. La troisième fonctionnalité, et je m'arrêterai là, c'est le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, c'est un petit peu la pièce centrale de l'application. Historiquement, mon réseau mobile ne permettait de consulter que des statistiques au niveau national. Maintenant, vous pouvez, à travers le moteur de recherche, consulter toujours des adresses, mais également des communes, des départements, des régions. Et en fonction de la zone que vous consultez, eh bien, l'ensemble des statistiques du site s'adaptent pour ne consulter plus que la zone que vous avez sélectionnée. Donc voilà, c'était un tout petit aperçu des très bonnes idées qui nous ont été soufflées par les collectivités. Il y en a en réalité beaucoup d'autres, mais je souhaitais évoquer au moins celle-ci. Le second tournant de cette nouvelle version, c'est également son interopérabilité. Alors, ça peut paraître un peu trivial, mais la première interopérabilité à assurer, c'est celle avec ses propres systèmes. Donc cette refonte a été aussi l'occasion de recentraliser un ensemble de données, notamment la position des antennes en panne. Donc si un jour vous avez un problème avec votre réseau mobile, vous pouvez aller vérifier que l'antenne à proximité n'est pas en panne. Et que ce soit le cas ou pas, vous pouvez directement nous signaler depuis la carte qu'il y a un problème. Et ça fait le pont avec un autre de nos systèmes qui s'appelle J'alerte l'ARCEP. Donc c'est les hexagones qu'on voit au centre de la capture. Donc ça, finalement, c'est aussi une façon de redonner du poids et de la parole à nos utilisateurs. Finalement, mon réseau mobile, c'est un peu le grand chaudron dans lequel on a mis toutes nos données, toutes les données qui étaient à notre disposition pour diagnostiquer et comparer la performance des opérateurs. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce constat ou si vous constatez qu'il manque des données ou qu'il y a un écart de données à l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, vous pouvez nous le dire et on en rendra compte à travers nos cartes. C'est des données qui sont publiées à la fin de chaque mois. Enfin, la dernière interopérabilité que je souhaitais évoquer, c'est celle qui relie mon réseau mobile à un ensemble d'écosystèmes de données publiques et d'applications très larges. Mon réseau mobile fonctionne parce que Etalab nous a ouvert la base adresse nationale, c'est ce qui vous permet de rechercher des adresses. Elle fonctionne parce que l'IGN maintient à jour le découpage administratif du pays et nous partage des fonds de plan en vue satellite qui étaient très, très demandés des utilisateurs. Et elle fonctionne parce que l'INSEE met à jour ses données de recensement. C'est ce qui nous permet notamment de fabriquer un certain nombre de statistiques concernant la population couverte de certains territoires. Donc tout ceci mis ensemble permet de belles réussites, comme par exemple la possibilité d'afficher les bâtiments en 3D dans mon réseau mobile. Donc là notamment un monument français, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, ce sera le quiz du jour. C'est le Mont Saint-Michel. Donc pour toutes ces raisons, je tenais à remercier ces différents acteurs, tout comme je remercie très sincèrement les collectivités qui nous ont accompagnés dans ce projet. C'est une nouvelle version, mais je souhaite, et mon souhait, c'est qu'elle puisse continuer à vivre pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, besoins qui nécessairement évoluent avec le temps. Et très précisément, je vais redonner la parole à Franck, qui va évoquer les sujets d'avenir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Noé. Donc pour la suite, je voudrais apporter rapidement quelques éléments d'éclairage sur la connectivité de demain. Et cela sous trois angles, les ressources en fréquence, les usages et puis l'innovation. Alors pour commencer par les fréquences, un constat. Aujourd'hui, les fréquences qui sont utilisées par les opérateurs mobiles ont été attribuées par vagues successives et l'ensemble de ces fréquences arriveront à échéance entre 2030 et 2035. Par ailleurs, de nouvelles bandes de fréquences sont aujourd'hui disponibles ou pourraient être disponibles vont l'être ou pourraient l'être dans les années qui viennent. Dans la mesure où l'utilisation de ces fréquences, l'attribution de ces fréquences représentera des enjeux assez structurants pour le secteur, cette période 2030-2035, elle constitue un jalon naturel pour la réflexion sur la connectivité de demain. En prenant cette période 2030-2035 comme horizon temporel pour nos réflexions sur la connectivité de demain, une question qui peut se poser, c'est celle de l'adéquation entre la quantité de ressources en fréquence que les opérateurs mobiles ont à leur disposition pour faire fonctionner les réseaux, d'une part, et d'autre part, le trafic de données mobiles qui doit être écoulé par ces réseaux pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Pour avoir des points de repère sur ce sujet, l'ARCEP a commandé une étude qui vient tout juste d'être publiée et qui opère un croisement donc sur cette période 2030-2035 entre d'une part différents scénarios d'usage, et ces scénarios d'usage ont été choisis volontairement comme étant assez extrêmes puisqu'ils vont d'une sobriété des usages à l'émergence d'applications disruptives. Donc un croisement entre ces scénarios d'usage d'une part et d'autre part des scénarios de déploiement des réseaux qui prennent en compte différents scénarios avec ou sans l'utilisation de nouvelles bandes de fréquences. Donc cette étude qui a été réalisée permet de voir finalement dans chaque case du tableau le niveau d'équilibre ou de déséquilibre qu'il y a entre la capacité disponible sur les réseaux et le besoin, la capacité, la bande passante en fait, qui est disponible pour écouler le trafic en fonction des usages qui sont demandés par les utilisateurs. Et une mesure de cet équilibre ou de ce déséquilibre est effectuée en regardant le nombre de sites que les opérateurs auraient à construire pour absorber le trafic supplémentaire dans chacun des cas. Nous avons inclus également dans cette étude des éléments comparatifs sur l'empreinte environnementale des réseaux dans chacun des cas de figure pour disposer d'éléments d'éclairage à ce sujet. Donc je vous invite à prendre connaissance des résultats de cette étude qui sont sur le site de l'ARCEP et qui ont vocation à éclairer largement les réflexions des années à venir sur la connectivité de demain. Autre sujet que je mentionnais sur l'autre angle pour regarder la connectivité de demain, c'est l'innovation. Et je me bornerai simplement à lister quelques questions sur ce thème. Par exemple, la connectivité mobile par satellite est-elle à l'avenir susceptible de compléter la couverture qui est offerte par les réseaux mobiles terrestres? L'évolution par la 6G. La 6G, c'est la prochaine technologie de réseau mobile qui est en cours de développement et de standardisation. Est-ce que cette nouvelle technologie permettra l'émergence de nouveaux usages et lesquels? Autre exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle comme une brique pour améliorer la performance ou mieux organiser le fonctionnement des réseaux. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle comme brique des réseaux va faire évoluer le métier d'opérateur mobile? Et enfin, dernier exemple de thème, l'intégration entre les réseaux mobiles et le Wi-Fi. Aujourd'hui, l'intégration entre ces réseaux existe, elle est néanmoins limitée à quelques applications, comme par exemple la voix sur Wi-Fi. Est-ce que dans les années à venir, on va voir émerger une plus grande intégration entre ces réseaux qui coexistent dans de nombreux contextes? Je conclurai cette introduction par la mention des travaux de notre comité scientifique Réseau du Futur, qui ont plus largement vocation à nous éclairer et à apporter des éléments d'éclairage dans le débat public sur les grandes tendances d'innovation dans le secteur, et mentionner particulièrement les deux dernières notes qui ont été publiées par l'ARCEP, une sur l'intelligence artificielle dans les réseaux télécoms, et une autre, Choisir son numérique, qui étudie les interactions entre les nouvelles technologies d'une part, et d'autre part, les usages et les préoccupations de la société de façon plus générale. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Franck, merci Noé. pour ces présentations particulièrement intéressantes. Enfin, vous avez dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir dessus, mais je retiens quand même que dans votre présentation, notamment sur l'actualité, mais aussi les nouveautés de mon réseau mobile, et surtout ton introduction, et donc merci Franck d'introduire la table ronde sur les réseaux de demain, vos présentations en fait, nous encouragent à nous projeter au-delà de 2030. Mais avant cela, je voudrais surtout pas oublier que la couverture mobile a connu ces dernières années une accélération incroyable en métropole grâce au New Deal mobile. Et tu as cité des chiffres, Franck, tout à l'heure. Alors, pour citer deux chiffres, je reprends celui du dispositif de couverture ciblée, donc 3800 pylônes mis en service, mais aussi ceux de la 4G fixe, 800 pylônes mis en service au 30 juin 2025. L'accélération de la couverture mobile prend également place en Outre-mer. Et là, je pense notamment au partenariat Banque des Territoires, TDF et Collectivité de Guyane pour la couverture du territoire. Enfin, au final, on peut le dire, et je pense que ce n'est pas mentir de dire cela, que jamais autant n'aura été fait pour les territoires ruraux en termes de couverture mobile. Et nous pouvons collectivement en être fiers. Mais alors maintenant, on a parlé de cette accélération de la couverture à l'instant et des infrastructures, mais est-ce que ces infrastructures existantes et celles qui aujourd'hui sont en cours de développement seront adaptées aux besoins de demain ? C'est un peu la question que l'on va se poser aujourd'hui. Et pour y répondre, donc on va porter un regard, et vraiment, Franck, tu nous y as invité, à 2030 et au-delà. À cet horizon, les utilisateurs pourraient naturellement être plus exigeant en termes de qualité de service, mais aussi en termes d'équité territoriale. Ils pourraient légitimement attendre une connectivité permanente, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et probablement, ils seront porteurs de nouveaux usages. Alors tout ceci, mécaniquement, aura un impact sur le dimensionnement des réseaux, et même sur leur nature. Effectivement, on peut imaginer que des réseaux, les réseaux de demain, qui offriront cette couverture mobile, s'appuieront sur des solutions qui ne sont aujourd'hui pas encore opérationnelles. Et donc c'est un peu de la projection, on se projette sur l'avenir, et je serais ravi que tous nos intervenants nous partagent leur expertise et nous pointent ce qui apparaît faisable, de ce qui apparaît tenir peut-être, on va dire, un peu de science-fiction. Donc, notre regard durant cette table ronde se portera tant sur les besoins au-delà de 2030 que sur les solutions industrielles et technologiques qui nous permettront d'apporter une réponse. Et pour nourrir ces réflexions, alors nous écouterons avec beaucoup d'attention Michel Sauvade, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, co-président de la commission numérique de l'Association des maires de France et maire de Marsac en Livradois, Juliette Lallemand, secrétaire générale de Bouygues, Jean-Hubert Lenotte, directeur de la stratégie d'Eutelsat, et Hassan Larèche, directeur connectivité pour la transition numérique chez SNCF Voyageurs. Alors, je vous propose tous les quatre de venir me rejoindre sur scène. Et notre table ronde se déroulera en quatre temps, mais vous avez un petit peu anticipé dans mon propos l'architecture de cette table ronde. On va naturellement commencer par les besoins. Alors, installez-vous. Sur les besoins, voilà, les besoins de couverture, l'appréciation de nos intervenants des besoins de couverture en 2030 et au-delà. Alors, nous explorerons aussi les réponses industrielles et technologiques, et ensuite, nous aurons un débat sur ces solutions et sur ces perspectives. Enfin, à l'issue de la table ronde, vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions que vous souhaiterez à notre panel. Et donc, je compterai sur vous. Et je vous propose de tout de suite démarrer avec les besoins des territoires et des usagers. Et pour cela, je me tourne vers toi, Michel. Avec une question finalement assez simple, quels besoins spécifiques des territoires, notamment ruraux, tu vois émerger à l'horizon 2030 ?
Oui, merci. Il faut toujours se méfier des questions les plus simples. Bah, écoute, tout d'abord, à l'issue du Mercato, je suis heureux de te retrouver dans le cadre de l'équipe de l'ARCEP. Ça, c'est naturellement le premier point. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il faut s'inscrire justement dans le prolongement de la très belle table ronde que nous avons connue ce matin, parce que c'est l'entrée par la donnée et c'est l'entrée par le contenu du tuyau qui inverse finalement l'approche des choses et qui, quelque part, justifie que nous nous investissions les uns les financer les autres dans le cadre des infrastructures, évidemment. Donc il me semble qu'on a vraiment là quelque chose de tout à fait intéressant et de tout à fait motivant pour nous. Tu as donné un certain nombre de pistes et je rappellerai derrière toi naturellement le très grand succès du New Deal, très, très clairement, qui est dû à l'ensemble des acteurs et des partenaires dans cette élaboration, ANCT, DGE, enfin, services de l'État d'une manière générale, opérateurs et collectivités locales, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous amène à être beaucoup plus exigeants en termes de couverture, parce que la frustration augmente avec justement la réduction des inégalités. Et au titre de l'AMF, mais je pense des collectivités locales d'une manière générale, c'est une attente de services universels nouveaux que nous avons derrière cela. Ce service universel, eh bien, il vise à nous donner à tous l'accès à la donnée, accès par le fixe, et on connaît tous les enjeux de la fibre, ça a été rappelé par la présidente de l'ARCEP tout à l'heure, mais également de plus en plus aux enjeux d'accès à la donnée en mobilité et dans la logique d'aménagement des territoires, qui est la logique des collectivités, prioritairement, eh bien, cet accès à la donnée dans le cadre des activités qui sont ces activités mobiles, c'est véritablement un enjeu tout à fait important. Je soulignerai ce qui a été souligné par les collègues élus de l'ADF et de Régions de France, c'est quelque part l'absence du portage politique. Je n'épilogue pas sur le vide intersidéral de l'État, du gouvernement à ce niveau-là, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'insister, mais ça ne nous exonère pas, nous, collectivités locales, d'une part de responsabilité dans ce portage politique, et je pense qu'il faut reconnaître aussi que eh bien, ces enjeux du numérique sont un sujet qui est perçu comme un sujet d'expert, un sujet techno, alors qu'il est vraiment au cœur, de plus en plus, de nos préoccupations d'aménagement du territoire. Alors, je me tourne vers mon voisin, lorsqu'on parle de mobilité et d'accès à la donnée en mobilité, je parle bien entendu de l'accès numérique, parce que si malheureusement on parlait de la mobilité ferroviaire, moi dont vous savez que je suis un acteur assidu de la ligne Clermont-Paris, inutile de vous dire qu'il y aurait beaucoup à dire. Ce n'est pas le lieu, mais je remercie la délicate attention de l'ARCEP à mon sujet, de mettre à côté de moi un représentant de la SNCF, qui, le malheureux en l'espèce, n'y peut rien, mais qui va subir les foudres qui sont les nôtres. À ce sujet, cher Laure, moi, je verrais d'un très bon œil que les compétences de l'ARCEP en termes de mobilité s'étendent en direction du ferroviaire. On aurait au moins des interlocuteurs qui seraient des interlocuteurs impliqués et compétents en la matière. Ça, c'est fait. Ceci étant posé, eh bien, pour revenir vraiment à l'ensemble, ta question était quelles sont nos attentes et quelles sont les attentes des collectivités à l'horizon de 2030, Franck Tarrier a très bien balayé le sujet et a rappelé que le sujet 2030, les équipes municipales qui vont se mettre en place au mois de mars seront encore là. Donc la vision, elle est sur 2035 ou au-delà. C'est évidemment, tu l'as rappelé, Zacharia, de ta part, une connectivité mobile en continuité, qui soit une collectivité de qualité, de par la surface et de par la non-interruption ou la non-rupture de la couverture dans l'espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de remontées d'élus qui font part, lors de nos déplacements, de ruptures de communication, y compris sur de la téléphonie. Sur un réseau plus large ou sur un espace plus large, vous savez que dans le cadre du New Deal, les axes prioritaires avaient été définis entre les opérateurs et l'État, et c'était vraiment une couverture du territoire, de notre point de vue, assez restrictive. Aujourd'hui, cette attente de mobilité, elle n'est pas seulement sur les axes les plus importants, elle est sur nos déplacements du quotidien, et les déplacements du quotidien ne sont pas forcément les déplacements sur les axes les plus importants. pour aller rapidement anticiper sur les besoins de 2030 et au-delà, ça a été rappelé dans la table ronde précédente, c'est être capable de fournir des supports de qualité à la multiplication des échanges des objets connectés avec une interaction. Je prends un exemple de capteur sur des routes. Un capteur sur une route, c'est quelque chose qui va faire remonter de l'information à l'utilisateur qu'est le conducteur, ou bien des informations au gestionnaire, mais c'est aussi, ça a été rappelé, le conducteur qui va pouvoir renvoyer des informations sur la situation en l'état. On a parlé de Waze tout à l'heure, on pourrait en citer d'autres. Valérie Nouvel a rappelé l'importance des jumeaux numériques, qui sont en quelque sorte l'aboutissement de cette vision au plus près du terrain. Et une fois qu'on a acquis ces données, me semble-t-il, il y a un autre enjeu qui est celui de la mobilité augmentée. Je ne sais pas si on peut entendre le néologisme, mais quelque part, nos attentes à nous, c'est de donner une plus grande intelligence du territoire. Ce n'est pas simplement acquérir des données, c'est permettre un choix politique, c'est permettre une décision la plus éclairée possible. Et on en resterait là, mais il est évident que des usages sont encore à imaginer aujourd'hui très largement. Il y a 10 ans, nous étions les uns et les autres ici. Est-ce que nous étions en capacité d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui? Et c'était seulement il y a 10 ans. Et Franck Tarrier a rappelé les enjeux, donc moi je ne m'étendrai pas sur le sujet des aspects techniques, de la montée en débit, du recours à de nouvelles banques de fréquences et de technologies. Je tiens à saluer à ce moment-là la diversification de la réflexion de l'ARCEP. J'ai eu le très grand plaisir d'assister en présentiel dans vos locaux vendredi dernier à une restitution, justement, à une table ronde autour des réseaux du futur. Et ça permettait, au-delà de nos enjeux et de nos exigences de connectivité, de poser un certain nombre de questions qui sont des questions liées à la fois à l'environnement, des questions liées à la nécessité ou pas d'avoir recours à un certain nombre d'usages. Et au titre des collectivités, moi, je rajouterais véritablement les enjeux autour de l'aménagement du territoire, j'ai dit, bien sûr, mais autour de la gouvernance. Je crois qu'on a été biberonnés au New Deal mobile et à cette notion de gouvernance partagée. C'est quelque chose auquel nous sommes attachés et sur lequel les collectivités locales sont vraiment très volontaristes. Ça serait peut-être un moyen d'ailleurs pour inciter les élus à s'engager davantage en la matière. En conclusion, puisque je dois être à peu près bon, enfin j'espère, c'est intéressant d'avoir un temps d'échange derrière. Pour résumer, je dirais que ce que nous attendons, c'est une couverture mobile globale, qualitative, évolutive, équitable, on l'a dit, et intégrée dans la transition numérique que nous devons tous accompagner pour soutenir le développement de tous nos territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou urbains, et garantir à travers ça le bien-vivre de ses habitants, et en particulier le bien-vivre ensemble à un moment donné où le bien-vivre ensemble, eh bien, ça nous interroge fortement aujourd'hui, et ça, c'est de la politique.
Très bien. Écoute, je te remercie, Michel. Tu as dit énormément de choses. Beaucoup, tu nous offres beaucoup de matière. Je retiens quand même quelques éléments dans ton expression. Effectivement, ce n'est pas un sujet technique. On parle de technique, il y a un fond technique, mais ce n'est pas un sujet technique. Nous parlons bien de la vie des gens, la vie quotidienne des gens. Et donc, fatalement et mécaniquement, ça devient politique. Donc, je ne peux que t'accompagner de ce point de vue-là. J'ai noté aussi deux, trois éléments. Enfin, il y aura beaucoup de choses à dire, mais tu as parlé aussi d'intelligence des territoires et de mobilité augmentée. Alors ça, c'est exactement ce qu'on souhaite, une projection à 2030, voilà, quels seront les besoins. Et peut-être qu'effectivement, on aura partout sur le territoire la capacité d'avoir des informations et de la donnée permanente qui nous informe, qui nous renseigne, qui nous oriente peut-être, je ne sais pas. Et tu as aussi évoqué le sujet des ruptures de communication. En fait, tu as bien rappelé que c'était un des axes prioritaires de transport qui faisait partie de New Deal, mais tu nous as parlé des axes du quotidien. En fait. Et ça, c'est essentiel. Et cette rupture de communication, c'est comme ça que je lis ton expression, sera toujours moins tolérable et à l'horizon 2030, elle ne le sera plus. Écoute, ça fait un peu la transition vers ASEN en tant qu'acteur de la mobilité. vous êtes en contact direct avec les utilisateurs, avec les usagers. Alors, quelles attentes vous identifiez et comment traduisez-vous ces enjeux sur le terrain pour vos usagers ?
Alors, bonjour à tous. Merci déjà beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Je rebondis déjà sur effectivement le New Deal, hein, comme vous, Michel. Hein. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental, qui est une véritable réussite, et tellement fondamental qu'on a même co-investi avec vous au début, parce qu'en fait, les premières cartographies, l'ARCEP et SNCF, ont fait des travaux communs justement sur ces datas le long des voies, qui ont permis notamment de qualifier les besoins de nos, usagers, en fait, hein, et d'améliorer la qualité de nos services. Donc, ça, c'est une petite intro, quand même, qui était assez importante, je pense. Si vous le permettez, moi, je vais aborder à la fois, en même temps, en fait, l'actuel et le futur, c'est plus simple. Et pour ça, je vais essayer de vous décrire SNCF selon nos trois principaux contextes. Je pense que c'est plus simple. Les contextes des gares, l'établissement recevant du public, le contexte des emprises privées, avec par exemple le technicentre, je vais en parler. Et puis après, effectivement, il y a le réseau ferré national. Trois contextes totalement différents. Alors, sur les gares, c'est simple, il y en a 3500. Intuitivement, le besoin principal, c'est de faire en sorte que les usagers des gares aient un service idéal, comme vous l'avez décrit. La spécificité des gares, c'est qu'en fait, la population est très, très, très diverse. En fait. Il y a les voyageurs, mais aussi les riverains, les agents de SNCF, des services régaliens, des boutiques. Et donc, en fait, on doit tenir compte de tout ça pour garantir un bon service de mobilité. Alors pour ça, en fait, on a travaillé très en avance de phase, notamment sur l'apparition de la 5G, et encore une fois, grâce à l'ARCEP, que je me remercie pour ça. On a pu utiliser en avance de phase des fréquences vraiment expérimentales pour tester les besoins futurs de la 5G, qui ont montré des cas d'usage très variés, hein. Autant pour l'usager donc voyageur, par exemple des téléchargements instantanés, pour ne pas derrière saturer la bande passante à bord du train en ayant ses contenus médias sur soi, ou bien des services vraiment aussi pour les agents et les boutiques. Donc c'était très très ouvert. Et j'en profite ici pour remercier aussi en fait, donc la DGE et tous les travaux du comité stratégique des filières en fait, qui nous ont permis vraiment de travailler sur ces sujets-là de façon très, très intense avec la BPI derrière pour travailler sur des projets. Alors ça, c'est le premier sujet qu'on voit sur les gares. Petite astuce, en fait, la mobilité ne sert pas qu'à la mobilité, elle sert aussi en fait, au fixe. On a un vrai sujet sur les gares, c'est la fin du cuivre. Donc il faut accompagner évidemment les travaux pour mettre la fibre partout. 3500 gares, ça veut dire qu'il y en a beaucoup en fait, qui sont totalement isolés, quasi impossibles à couvrir avec des réseaux standards de type fibre. Et donc, en fait, on doit faire appel à des alternatives, notamment des réseaux 4G, 5G, qui donc, se supplient en fait, aux liens physiques fixes de la fibre, ou bien peut-être aux satellites, débat tout à l'heure. D'accord. Deuxième contexte, nos emprises privées. Donc, le principal que je vais aborder, c'est plutôt les technicentres. Donc, ce sont les gros garages, on va dire, en fait, qui permettent de rénover et transformer les trains. Il y en a une quarantaine en France. Là, taille typique, 10 hectares, 20-30 max, indoor-outdoor, métal, caténaire, caisse de train, atroce. Donc la connectivité est très très difficile. Ils sont aussi souvent plutôt dans les zones éloignées des villes, donc ça marche pas très bien. Donc là, simplement, en fait, on déploie notre propre réseau mobile d'entreprise. Donc c'est un réseau comme celui des opérateurs, qui est toujours d'ailleurs le bienvenu et en complément en fait, de ce réseau. Il est très très important le réseau d'opérateurs aussi sur nos sites. Mais notre vraiment vraie principale stratégie, c'est notre réseau mobile d'entreprise qu'on déploie actuellement. Et dernier sujet, le RFN, deux enjeux principaux. L'exploitation ferroviaire, donc ça c'est un réseau de sécurité très très critique hein, qui s'appelle le GSMR, qui est en fait dans la responsabilité SNCF Réseau, qui permet de faire simplement que les trains roulent en toute sécurité, fondamentale. Et à côté, effectivement, il y a toute la connectivité le long des voies ou dans les trains. Alors ça permet d'une part de remplir plein de cas d'usage propres à nos métiers, hein, l'affichage voyageur par exemple, la télérelève de données spécifiques des trains, etc. Alors pour ça, ça marche bien aujourd'hui, notamment grâce aux efforts du New Deal, on l'a dit, 97% de couverture dans les bandes basses, on a une vraie amélioration. Par contre, dès qu'on touche en fait, au confort des usagers ou bien aux applications qui vont demander la data à terme, et bien, en fait, on dépend des connectivités en bord de voie des opérateurs. Aujourd'hui, le TGV est équipé en Wi-Fi à bord. Deux régions sont équipées au site ER, donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Normandie. Le Wi-Fi fonctionne à bord, mais faut-il encore le connecter en fait, au réseau. Et c'est là où en fait, on pêche parce qu'on traverse de nombreuses zones blanches. Et en fait, l'usager, ce qu'il voit, c'est la zone blanche. Et en fait, il se plaint du Wi-Fi à bord, mais en fait, c'est une problématique de zone blanche. D'accord. Alors, on a aussi des alternatives autres que le Wi-Fi à bord. On peut aussi rendre le train plus perméable aux ondes, en faisant par exemple du micro-usinage de vitres. Mais pareil, ça coûte cher, c'est quand même intégrer du Wi-Fi à bord. Et donc, les investissements peuvent être portés par les gens à partir du moment où on a une garantie en fait, de connectivité le long des voies. Donc, pareil, il y a un travail sur l'amélioration de la connectivité, le bord de voie, hein. Mais aussi des opportunités futures qu'on peut discuter, voilà, par exemple, du satellite. Voilà, par exemple.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup, c'est assez éloquent. En tout cas, merci pour pour ce panorama de tous les besoins de connectivité au sein de la SNCF, et j'ai bien noté qu'il y avait plusieurs champs. Évidemment, vous aurez compris à scène, on est très intéressé à la connectivité des usagers, même si les autres sujets étaient tout à fait d'intérêt. Et j'ai relevé que le Wi-Fi à bord, c'est votre responsabilité, mais vous avez besoin d'un réseau extérieur. Là, c'est nécessaire, et ça vient toucher des choses très sympas. Enfin, on parle du réseau mobile des opérateurs, mais on reviendra sur peut-être d'autres solutions. Et vous avez parlé d'un deuxième volet qui m'intrigue également, c'est la perméabilité. C'est-à-dire permettre à l'usager, à l'intérieur du train ou du wagon, je ne sais pas comment on dit les choses, de la voiture, d'avoir accès au réseau extérieur parce que les parois l'autorisent. Et donc, détaillez-nous ça en deux secondes. Alors, concrètement, par où passe l'onde, en fait ?
Tout à fait. Alors, c'est très simple. Donc, en fait, un train, c'est une caisse de Faraday, même si on ne parle pas de technique. En fait, c'est du métal et du verre métallisé, parce qu'en fait, les vitres sont rendues un petit peu étanches pour protéger la température, etc. Et en fait, cette couche métallique, en fait, elle peut complètement les ondes sur les vitres. Donc, une façon de faire, c'est effectivement de les micro-usiner pour qu'en fait, elles permettent le passage de l'onde à l'intérieur de la caisse du train. Alors, ça marche. Hein, on a des gains d'une quinzaine de dB. Mais ceci étant, même si on fait passer l'onde dans le train, par les vitres, ça permet aux usagers d'avoir un accès direct sur les réseaux d'opérateurs, mais ça ne comble pas le fait que le réseau n'est pas présent partout suffisamment. Voilà.
Très bien, très clair. Donc, j'ai appris une chose aujourd'hui, c'est que ça passe par les vitres, parce que le reste est imperméable. Et donc, ça exige évidemment qu'il y ait un réseau extérieur. Écoutez, très bien, merci. Merci à tous les deux pour cette expression des besoins et de ce que vous anticipez des besoins de demain. Eh bien, l'étape suivante, naturellement, c'est la réponse industrielle et technologique. Et à ce titre, je me tourne vers vous, Juliette, ou vers toi, pardon, parce qu'on avait dit qu'on se tutoyait, n'est-ce pas ? Les deux interventions témoignent d'usages et d'attentes qui s'amplifient et qui se diversifient. Alors, ma question, finalement, elle est assez simple, c'est comment, en tant qu'industriel, en tant qu'opérateur mobile terrestre, préparez-vous vos réseaux pour gérer cette croissance tout en assurant la qualité de service et aussi la résilience de vos infrastructures ?
Alors, merci Zacharia et merci à l'ARCEP pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Alors, je vais répondre aussi de manière simple à la question. Comment nous préparons-nous ? Tout d'abord, nous nous préparons en termes de couverture et aussi, évidemment, en termes de capacité. Alors, en termes de couverture d'abord, et même si j'entends que les attentes dans les territoires sont nombreuses et que les chiffres ne font pas tout, ça a été dit tout à l'heure, nous couvrons d'ores et déjà en 4G plus de 99,9% de la population à l'extérieur des bâtiments et plus de 99,5% à l'intérieur. La France est par ailleurs un des pays d'Europe les plus densément couverts en Europe. Alors, on l'a dit, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est notamment grâce au New Deal mobile, je ne vais pas y revenir, 3800 sites déjà déployés dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Mais le New Deal mobile, ça n'est pas terminé quand même. Il reste encore des sites à déployer. On a encore 1400 sites à déployer dans le cadre de ce dispositif. Et les obligations des opérateurs, elles courent jusqu'à la fin de la décennie. Alors, je voudrais moi aussi en profiter pour remercier d'ailleurs tous les acteurs, les collectivités territoriales, bien sûr, et les services de l'État pour le travail accompli qui a permis de faire de ce programme un succès. Il reste néanmoins des obstacles au déploiement, on le sait, en particulier des obstacles dans certaines zones classées, dans les zones littorales, parfois des oppositions de riverains ou encore des délais de raccordement électrique qui sont parfois longs et complexes et qui font qu'on a parfois du mal à tenir les délais que l'on s'est collectivement fixés. Pour autant, la couverture progresse et c'est une bonne chose. Et pour revenir sur les trains, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a encore des difficultés pour couvrir, en effet, à l'intérieur des TGV. En revanche, sur les trains du quotidien, on a pas mal progressé ces dernières années, d'ailleurs là aussi grâce au New Deal. Et à horizon 2030, nous devrons avoir couvert dans les trains 90% des trains du quotidien. Alors, au-delà des obligations réglementaires et au-delà du New Deal mobile, nous, Bouygues Télécom en tout cas, continuons à faire progresser notre couverture via des programmes de densification qui vont courir jusqu'en 2030. On va déployer plusieurs centaines de sites chaque année d'ici cet horizon. Et donc, même si on ne parviendra jamais à couvrir chaque centimètre carré du territoire en couverture mobile, il y aura à cet horizon très certainement très peu de zones blanches. Et s'ils en subsistent, elles seront très certainement résiduelles, de faible superficie et très faiblement peuplée. Voilà pour la couverture. La capacité maintenant, puisqu'on le sait, un réseau mobile, c'est aussi de la capacité. Et à horizon 2030, l'enjeu pour les opérateurs sera surtout capacitif, cela a été dit. Du côté de Bouygues Télécom, on voit que le volume de trafic sur nos réseaux progresse chaque année, depuis plusieurs années. On est aujourd'hui à plus de 2,5 gigas par client et par mois chaque année. Et cette croissance, évidemment, elle va se poursuivre jusqu'en 2030 et au-delà, poussée par plusieurs tendances, par plusieurs phénomènes. D'abord, par le développement des nouveaux usages, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle, qui génère un trafic de plus en plus important sur nos réseaux, et surtout un trafic montant, alors que le trafic aujourd'hui est plutôt majoritairement descendant, et qui génère aussi un trafic d'usage vidéo, donc un trafic vidéo. Autre phénomène, l'augmentation des objets connectés, et le développement des services de réalité augmentée. Je pense par exemple aux casques connectés, aux lunettes connectées, qui sont très consommateurs de bande passante. Cette année, Meta a déjà vendu dans le monde 2 millions de lunettes connectées, et évidemment la tendance là aussi va se poursuivre. Alors côté Bouygues Télécom, nous anticipons une croissance annuelle d'environ 20 à 30% d'ici 2030, hors prise en compte des nouveaux services. Et certains experts prédisent même une multiplication par 6, voire par 9 du trafic Internet mondial d'ici 2033. On observe par ailleurs que le trafic à l'heure de pointe progresse plus rapidement que le trafic moyen écoulé sur la journée. Or, nous dimensionnons nos réseaux, bien évidemment, sur le trafic à l'heure de pointe, donc c'est un point important. Et puis, on voit aussi que le trafic, la hausse du trafic est tirée par les grandes plateformes, les plateformes sociales, les plateformes vidéo comme TikTok, Netflix, etc. Alors dans ce contexte, que faisons-nous en tant qu'opérateurs et qu'allons-nous faire pour répondre à cette hausse des usages? Il faut déjà savoir que la qualité de service, elle est monitorée étroitement, en permanence sur nos réseaux, afin d'anticiper le plus en amont possible les zones du territoire en risque de saturation et de conduire nos investissements prioritairement dans cette zone pour répondre aux besoins. Très concrètement, nous menons plusieurs actions sur, sur notre réseau et allons continuer à en mener. Il y a bien sûr, et ça a été dit, l'extension de la 5G TDD, le déploiement de la 5G dans la bande 3.5 qui permet d'avoir plus de capacité et plus de débit. Il y a aussi la densification nécessaire en zone urbaine par l'ajout de sites pour avoir un maillage urbain plus resserré. Il y a également une densification en zone rurale, mais aussi une montée en débit. On ajoute des bandes de fréquences dans les zones rurales. Et puis, il y a le refarming, la réutilisation des fréquences de G3G en 4G et 5G, qui sont évidemment des fréquences plus efficaces et plus performantes. Des technologies, pardon, plus efficaces et plus performantes. À horizon 2030, l'ensemble de nos sites sera équipé en 5G et donc permettra d'offrir davantage de débit à l'ensemble de nos clients. Alors on le voit, la majeure partie de nos investissements dans le futur vont donc être alloués à la capacité. Et bien sûr, ça nécessite énormément d'investissements de la part des opérateurs mobiles. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'effort ne doit pas être supporté uniquement par les opérateurs, mais également par les éditeurs de services, par les grandes plateformes, qui doivent concevoir leurs services de manière plus sobre, en tout cas moins consommateurs de bande passante. Et ça ne passera que par une intervention au niveau européen pour les inciter à s'engager dans cette voie. Un mot enfin peut-être, puisque vous me posiez aussi la question de la résilience. On entend beaucoup parler de résilience ces derniers temps, et il faut souligner à cet égard que les réseaux mobiles déjà sont nativement conçus et déployés de manière résiliente. Ensuite, les expériences récentes que l'on a pu avoir avec des phénomènes climatiques extrêmes nous ont montré que l'indisponibilité des réseaux mobiles et des sites mobiles était très largement due à la perte d'alimentation électrique. C'est ce qui s'est passé lors des tempêtes Ciaran et Domingo en 2023, c'est ce qui s'est passé encore cet été avec les incendies dans l'Aude. Et là, sur ce point, nous appelons depuis un moment à ce que, en ce cas d'événement grave, les sites mobiles soient prioritairement rétablis en tant qu'infrastructures essentielles. Voilà, pour j'arrive à la fin de ce propos. Donc, la résilience, c'est aussi la sécurisation de nos sites. Donc, nous investissons également énormément pour nous protéger contre l'augmentation des risques cyber et sur la sécurisation de nos réseaux. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Juliette. C'est absolument éloquent. Je retiens deux, trois choses de ce que vous nous avez présenté. Enfin, vous avez également dit beaucoup de choses. Mais vous avez pointé le fait que l'enjeu était pour beaucoup capacitif. Il faut être capable d'accompagner des nouveaux usages, toujours plus consommateurs. Alors, j'ai bien noté que l'IA, mais aussi les services de réalité augmentée, eux, en plus, mobiliseront du flux montant, du débit montant. Donc, effectivement, ça appellera peut-être de densifier vos infrastructures. Et j'ai bien noté un chiffre d'une croissance que vous estimez à 20 à 30 % par année dans les prochaines années. Ce qui, effectivement, nous encourage à nous dire que voilà, les investissements sont nécessaires. Ils seront nécessaires. Et enfin, vous m'avez pas mal intrigué en disant que l'effort doit être aussi fait par les plateformes pour optimiser leur flux. Parce que leur laisser la liberté de consommer, on va dire, pardonnez-moi de la comparaison, mais sur une autoroute, quatre voies là où ils ne pourraient en prendre qu'une, effectivement, ça vous obligerait, vous, à des efforts d'investissement dans lesquels eux n'auraient pas assumé une responsabilité. Donc, effectivement, mais ce sujet-là, ça, il est plutôt d'un ordre européen, mais c'est notre force au sein de l'Europe de peut-être être capable d'imposer des choses aux grands acteurs. En tout cas, merci beaucoup. Alors, toujours dans ces réponses industrielles et technologiques, le satellite est souvent présenté comme un complément au réseau terrestre. Alors, Jean Hubert, voilà, vous êtes notre expert pour les questions de satellites aujourd'hui, et on est très à votre écoute. Quelles sont les promesses concrètes de cette technologie pour la couverture mobile de demain ?
Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi d'être dans cette conférence et effectivement pouvoir parler un peu du satellite qui quand même commence à, je pense que tout le monde peut le voir, commence à envahir nos vies, y compris pour les besoins de connectivité. C'était déjà le cas pour beaucoup d'autres applications. Alors d'abord, peut-être deux mots sur la technologie simplement. De rappel, sans rentrer dans trop de détails, je vous rassure, mais en fait on a expérimenté deux révolutions technologiques assez majeures dans le monde du satellite. La première que vous avez vécue, qu'on a tous vécu, c'était les satellites géostationnaires de plus forte capacité, et je crois qu'on a déjà pu en parler depuis un certain temps. Eutelsat couvre avec Orange, qui est notre principal distributeur en France, couvre le territoire français avec un satellite géostationnaire qui s'appelle Connect VHTS, et donc qui offre un service Internet de connectivité simple déjà partout dans le monde. Donc ça, c'était une première révolution qui permettait d'apporter simplement beaucoup de capacité à un coût abordable pour une connectivité Internet et avec quand même une certaine contrainte qui est que, si je prends très concrètement le cas de la France, notre capacité était plutôt de servir, on va dire, une centaine de milliers de clients, peut-être un peu plus, 100, 150, avec une très bonne connectivité qualitative. Donc on voit qu'il y avait quand même une limite à cette possibilité. Deuxième révolution, celle des constellations. Les constellations, c'est à la fois, évidemment, beaucoup de satellites, d'abord, beaucoup de satellites produits à l'échelle industrielle, et des satellites qui, chacun, eux-mêmes, voient leur capacité augmenter, parce que les progrès technologiques, bien sûr, ne ralentissent pas, bien au contraire. Peut-être simplement pour vous illustrer ce que ça peut dire, lorsque nous réfléchissons à nos satellites de future génération, on pense à une capacité de 100 gigabits par seconde par satellite, c'est justement un cinquième de Connect VHTS. Mais on parle bien de constellations, on parle de centaines de satellites. On a un concurrent qu'on ne peut pas tout à fait ignorer, qui s'appelle Starlink, qui a des milliers de satellites. Et donc, on voit bien qu'on est sur des centaines, des milliers de satellites qui, chacun, ont la taille, déjà aujourd'hui, d'un cinquième de satellites Connect VHTS. Et bien sûr, ça va continuer à s'améliorer. Donc, on a l'apport massif de capacités qui permet de servir beaucoup plus de clients, qu'on prend les deux constellations aujourd'hui en service, Eutelsat OneWeb, bien sûr, et Starlink. On a bien sûr la latence, le bénéfice de la latence, avec des latences qui sont compatibles pour ces satellites en orbite basse, c'est-à-dire entre 300 et 1200 km d'altitude, des latences qui permettent de servir tous les usages, absolument tous les usages. Et puis on a aussi simplement une facilité d'installation du service. On a des antennes qui peuvent être... qui pour certaines sont assez petites, qui sont très faciles à installer. Et là encore, je pense que vous avez tous en tête ce que le service fournit. Alors vous l'avez sans doute pour Starlink, parce que Starlink adresse le marché grand public. Nous sommes sur le marché B2B, mais on a effectivement les mêmes antennes très très simples, plates, qui peuvent s'insérer partout et donc servir les besoins des utilisateurs. Et donc, voilà les deux révolutions. On dira un mot plus tard aussi de la troisième, ou en tout cas une révolution un peu en parallèle sur le direct-to-device. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que, encore une fois, Ça permet de servir les besoins très très basiques, complémentaires, dès aujourd'hui bien sûr, pour avoir une connexion Internet partout de qualité. Vous parliez, Michel, d'offres globales. On est nativement global, nativement très faible latence, et encore une fois, avec des perspectives d'ajout de capacités qui vont être très importantes. Notre perspective, néanmoins, c'est que ça reste complémentaire des réseaux terrestres. Bien sûr, par rapport à l'explosion des usages qu'on voit et qui était mentionné avant, le satellite va rester complémentaire. Mais le satellite, dans cette complémentarité, va continuer dans la course en ajoutant énormément de capacités. Alors, pour servir quels usages ? Je l'ai déjà dit, c'est dès aujourd'hui les usages, simplement une connectivité fixe pour un particulier ou pour une entreprise. C'est aussi aujourd'hui, mentionnons-le quand même, puisqu'on est, on parle de mobilité, le backhaul. Donc, à la fois en satellite géostationnaire et en satellite Léo, on offre des solutions de backhaul qui permettent d'aller mettre des stations, des BTS supplémentaires dans des zones très, très reculées. C'est, bien entendu, les solutions de mobilité autre. Et les solutions de mobilité autre, encore une fois, il y en a certaines qui existent aujourd'hui. On connecte des avions, on connecte des bateaux, on connecte des véhicules. On parle de territoires ruraux. Il y a eu des appels d'offres de grandes sociétés comme John Deere et autres qui connectent des tracteurs aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un besoin absolument réel. Et donc ça, ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui. Et si on se projette sur le futur, ben c'est simplement, je dirais, davantage en fait, de connectivité qui vont répondre, je pense, à des usages plus particuliers. Donc le train, ça arrive, on n'y est pas encore tout à fait. Le train, il y a des difficultés techniques en fait, particulières. C'est un peu plus compliqué de connecter les trains que les avions, pour diverses raisons, je ne vais pas m'étendre ici. Mais donc ça arrive, effectivement, il faut des antennes tout à fait particulières pour les trains et des solutions pour les tunnels, par exemple, et entre autres réjouissances. Mais bien sûr, au-delà de ça, les antennes vont aussi évoluer. Aujourd'hui, c'est peut-être un des défis principaux pour les fournisseurs de satellites, en particulier Eutelsat, avoir des antennes qui répondent aux différents usages. Et donc, c'est en mobilité aussi pour les véhicules connectés, simplement, les véhicules connectés. La réalité d'avoir dans un véhicule la connectivité partout, y compris pour des appels d'urgence si vous avez une panne, un incident, etc. La connectivité à bord du véhicule pour simplement les besoins de loisirs. Et au-delà des véhicules connectés, bien sûr, tous les cas, Juliette le mentionnait, tous les cas d'Internet des objets qui seront là aussi très nombreux. Donc, on voit, c'est simplement en fait réellement, je pense, les mêmes usages qui sont servis avec une évolution forte, beaucoup de connectivité massive, faible coût et des terminaux qui vont être adaptés à ces différents nouveaux usages. Pardon. Et dernier point quand même que je ne voudrais pas oublier, la résilience aussi, simplement parce que le satellite, aujourd'hui, évidemment, événements climatiques, parfois attaques cyber. On peut aussi penser à d'autres événements. Donc la résilience que permettent les infrastructures satellites par rapport aux infrastructures terrestres est absolument clé.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Hubert. Là, vous avez effectivement pointé un certain nombre de sujets. En tout cas, ce que je retiens, c'est que la technologie aujourd'hui nous permet de voir, en tout cas d'anticiper, pour répondre aux besoins du marché, toujours plus de capacités satellitaires. Et avec une composante naturellement de service qui est celle du backhaul, enfin c'est la collecte, vous allez chercher, et donc ce qui permet d'aller installer des antennes mobiles, de téléphonie mobile dans des endroits toujours plus complexes et hors de portée d'un faisceau hertzien par exemple ou de la fibre. Mais vous avez aussi parlé d'antennes de satellites qui seraient toujours plus faciles à intégrer et qui naturellement trouveraient leur place dans de nouveaux véhicules. Alors vous parlez déjà des avions parce que c'est déjà une réalité, des bateaux, mais pas que. Mais justement, j'en profite, nous avons Hassen avec nous et je voudrais avoir l'avis de l'utilisateur de la SNCF. Donc voilà, Jean-Hubert a parlé de la connectivité, de la complémentarité des satellites, mais vous Hassen, est-ce que la SNCF intègre le satellite comme une solution potentielle ? Et si oui, dans quel cas d'usage ? Et donc voilà, je pense notamment aux trains régionaux et du quotidien, parce que c'est un de nos gros sujets, c'est celui qu'emploient tous les Français tous les jours.
Oui, tout à fait. Alors je pense que le mot complémentarité ou synergie, hein, il est bon, parce qu'en fait, on n'envisage pas de travailler sans les opérateurs avec qui on a des liens très très forts. Hein. Le vrai sujet, c'est de quelle façon on arrive à complémenter une difficulté d'une techno par rapport à l'autre selon les situations. Typiquement, sur le train du quotidien, ben, quand on approche des zones périurbaines, en fait, ben, on a notamment en fait, la bande 3.5 commence à être déployée. Effectivement, le NULI qui a permis d'avoir les bandes basses hein, qui couvrent. Donc nous, on observe effectivement une consommation accrue dans les trains, pour le Wi-Fi à bord, les trains qui seront équipés nets avec ces deux éléments. Par contre, dès qu'on est dans des zones plutôt blanches, hein, encore une fois, c'est un peu un gruyère dans certaines régions, il faut une alternative, et typiquement, le satellite apporte vraiment quelque chose a priori. Donc, finalement, on regarde ça, d'accord ? Parce que ça permet, effectivement, de prendre le meilleur des deux. C'est vraiment ça, l'idée qu'on a de notre côté. Et après, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi, effectivement, les sites distants, éloignés, ce que ça dit Jean-Hubert, en fait, hein, comment on fait pour avoir une alternative à un plan de déploiement qui demanderait trop de frais de génie civil pour mettre de la fibre. C'est un peu les deux sujets, en fait.
Ce que j'entends, c'est que c'est une solution pour la SNCF, et donc une solution qu'on pourrait imaginer sur des trains. Alors, Jean-Hubert a pointé des difficultés techniques. Évidemment, quand on passe dans un tunnel, c'est beaucoup plus difficile d'aller attraper le signal satellite. Mais c'est quand même une solution que vous envisagez aujourd'hui, et qui peut-être va trouver une solution pour offrir ce que vous disiez tout à l'heure, un Wi-Fi qui marche dans le train, mais qui a besoin d'une collecte, et ben peut-être que le satellite, ce sera la solution pour certaines lignes de train. Je ne dis pas toutes les lignes, mais certaines lignes de train.
Exactement ça.
Ou dans certaines phases de leur trajet. Parce que, vous me permettez, mais votre objectif, et vous le direz mieux que moi, c'est quand même que l'utilisateur ce soit transparent pour lui. Lui, il n'a pas à se poser la question, est-ce qu'il y a une couverture mobile, est-ce qu'il y a du signal satellite. Lui, il utilise son ordinateur, sa tablette ou son téléphone dans le train, il faut que ce soit absolument transparent.
Alors, du coup, je rappelle, il a fait des deux situations de connexion dans le train. Il y a son propre terminal, donc ça c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, et là où en fait le réseau n'est pas suffisant, ben, il appuie sur une connectivité dans le train. Et donc, pour ces connectivités, en fait, on a besoin de ce fameux backhaul, le lien qui permet de connecter le train à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a une alternative qui complète en fait, la solution existante des opérateurs mobiles. Donc, ça donne une richesse en plus qui permet d'envisager les choses différemment. Donc, effectivement, on réfléchit à ces solutions, on les évalue.
Très bien. Très bien, je vous en remercie. Alors, nous rentrons dans la dernière phase de notre table ronde. Et donc, je vais me tourner vers vous. Alors, j'ai le rôle ingrat aussi de gardien du temps. Donc je vous demanderai de faire les réponses les plus courtes si possible pour offrir un peu de temps à la salle qui, je l'espère, en tout cas je n'en doute pas, aura des questions à vous poser. Alors je reviens vers vous, Jean-Hubert, vous l'avez un petit peu pointé dans votre expression, le sujet direct to device. Enfin, on en entend beaucoup parler, c'est à se demander si ce n'est pas de la communication marketing, je ne sais pas comment interpréter les choses, mais vous allez nous le dire. Et en fait, notre question, elle est, est-ce que cela pourrait devenir une solution effective pour améliorer la couverture mobile dans les zones rurales ou dans les transports, dans un horizon de 2030 et plus ? Et n'hésitez pas à en dire un tout petit mot pour expliquer aux non-experts qu'est-ce qu'on appelle « direct to device ».
J'allais effectivement commencer par cela. Le « direct to device », c'est simplement la connectivité directe à un device, en l'occurrence surtout votre téléphone, depuis le satellite. Ce qui n'est pas exactement ce qu'on offre sur les offres broadband actuelles de OneWeb, Telsat ou de Starlink, qui utilisent des bandes de fréquences différentes. Ici, pour aller directement sur le satellite, on utilise la même bande de fréquences, pas besoin de changement sur le téléphone, sur le device. Alors, aujourd'hui, le service commence à exister, mais plutôt sous forme de service à faible capacité. Vraiment, c'est des messages. Notamment Apple avec GlobalStar, donc ce type de service existe. Mais on voit bien que, en particulier Starlink, d'autres acteurs également, ont une ambition forte sur ce service. Il y a deux semaines, Starlink a racheté aux États-Unis les fréquences d'EcoStar et en fait donc rachète des fréquences dans les bandes S et L pour pouvoir directement offrir un service en se passant des opérateurs télécoms. Et effectivement, pour ces services dans le futur, il faut quoi ? En fait, il faut des fréquences, soit les fréquences des opérateurs télécoms, soit des fréquences SOL. Et par ailleurs, il faut quand même aussi des satellites, et des satellites d'ailleurs dans style et une technologie un tout petit peu différente des satellites que nous utilisons, parce qu'il faut en particulier qu'ils soient très bas pour pouvoir communiquer avec les téléphones, et qu'ils aient aussi, pour que le bilan de liaison simplement soit bon, des antennes très très grandes. C'est des antennes qui font la taille pour les satellites actuels de Starlink. de à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis, donc ce qui est quand même pas mal. Donc il faut ces deux éléments. Il faut aussi beaucoup d'argent pour ça. Nous, Eutelsat, on a quelques questions et quand même incertitudes sur la taille de ce marché. Mais nous sommes persuadés néanmoins qu'il faut que l'Europe réagisse. On discute avec certains opérateurs, en l'occurrence Juliette, pas encore Bouygues Telecom, d'autres opérateurs européens, pour voir la réponse adaptée. Mais il est certain qu'il faut une réponse adaptée. Il faut une réponse adaptée sur les fréquences. Les actions des Starlink et autres Amazon pour capturer le plus de fréquences, d'abord auprès de la FCC, mais auprès de l'IUT aussi, sont très importantes. Et donc, on a besoin d'une réponse européenne, d'une réponse de souveraineté. Et j'en profite quand même pour le redire et peut-être conclure là-dessus pour ma part, que ces infrastructures de satellites, on voit bien qu'elles offrent effectivement des solutions aujourd'hui. On voit bien quand même que l'évolution est très, très rapide. On peut se réjouir d'avoir en France, en Europe, en France, avec Eutelsat, le seul acteur qui est aujourd'hui de facto concurrent de Starlink sur les constellations. On a le soutien de l'État. On aura besoin de plus de soutien de l'État, puisqu'on voit que le soutien apporté à Starlink et Amazon de façon directe et indirecte est beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'on a. Je vais quand même retenir que nous n'avons pas rien et donc m'en réjouir. Mais c'est en termes de vision, lorsqu'on pense aux infrastructures, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et je m'arrêterai peut-être sur ce propos.
Merci, merci beaucoup Jean-Hubert. En tout cas, merci pour votre regard. Je retiens qu'il y a encore des incertitudes sur ce marché, mais qu'il y a quand même une très forte ambition chez certains acteurs internationaux. Et enfin, je relève un mot que vous avez employé qui me touche particulièrement, qui est celui de la souveraineté. Parce qu'effectivement, imaginer des scénarios où il n'y a qu'un seul acteur qui apporte une réponse, c'est effectivement que collectivement, nous dépendions de cet acteur. Donc voilà, je pense qu'on en a pour encore une heure de table ronde si on rentre dans ce sujet, mais quand même vous le pointez avec beaucoup de justesse. Et je vois par ailleurs que l'heure tourne, donc si on veut tous déjeuner et surtout permettre quelques questions, je me tourne vers vous, Juliette. Alors là, encore une fois, réponse courte, si vous me le permettez, avec une question très large. Quels sont les enjeux, quels sont vos enjeux et ceux que vous anticipez d'ici à 2030 ?
Nos autres enjeux, ils ont été évoqués en introduction par Franck Tarrier. Il y a le renouvellement des fréquences qui arrive à échéance 2030 et qui va s'étalonner entre 2030 et 2035, et la 6G. S'agissant du renouvellement des fréquences, les opérateurs ont besoin de stabilité et de prévisibilité réglementaire pour pouvoir continuer à investir dans leur réseau. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il n'y ait pas de remise en cause des fréquences qui nous ont été attribuées et que le processus d'allocation du spectre nous permette de continuer à opérer les fréquences que l'on a aujourd'hui. Alors c'est important, dans la mesure où on parle de connectivité, de qualité de service et de trafic qui augmente, on aura besoin de toutes nos fréquences pour pouvoir maintenir la qualité de service qu'on offre déjà aujourd'hui à nos clients. Si on a moins de fréquences, on ne pourra pas offrir la même qualité. Et je réagis par rapport à ce que vous disiez. Si les services satellitaires devaient se développer et être autorisés sur le mobile, ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez des fréquences dédiées, des bandes de fréquences dédiées, et qu'on ne vienne pas chercher les bandes de fréquences des opérateurs. Ensuite, autre message, évidemment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'enchères pour le renouvellement des fréquences. Le secteur des télécoms, on le sait, est un secteur qui est très endetté aujourd'hui. Et je pense qu'il n'est pas possible de faire comme pour le passé, d'allouer énormément des montants considérables pour obtenir du spectre. Et que tout euro qui sera mis dans une enchère sera un euro de moins dans l'aménagement du territoire et dans l'innovation, la modernisation de nos réseaux. Et enfin, nous aurons également besoin d'avoir des durées d'autorisation suffisamment longues, au moins 20 ans, pour nous permettre d'amortir nos investissements. Rapidement sur la 6G, pour conclure. Alors, les travaux de normalisation de la 6G vont s'achever vers 2029. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour dire si la 6G apportera réellement des nouveaux services ou si ce sera un apport capacitif, comme ça a été finalement le cas pour la 5G, puisqu'on a beaucoup surpromis et puis finalement on a vu que c'était surtout un apport capacitif. Aujourd'hui, la 6G, on parle de plein de choses, de robots coopératifs, d'expériences immersives. Mais voilà, il est encore trop tôt pour le dire. Donc nous, notre message sur ce sujet, c'est qu'il faudra aborder ce sujet de la 6G avec prudence.
Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Et, voilà, on a entendu vos demandes. Elles sont importantes, quand même, disons-le. Il y a une chose que je relève quand même, parce que vous avez pointé la concurrence entre enchères et aménagement du territoire. Alors, je n'irai pas jusqu'à interpréter votre expression, mais est-ce qu'on pourrait penser que vous êtes favorable à une suite du New Deal ou... Non, c'était une blague. Allez. Bon, allez. Il est temps. Je pense que je t'ai coupé la blague, c'est ça, Michel ? Non ? Mais en tout cas, je me tourne de nouveau vers toi. Tu as introduit. Je t'offre la conclusion parce qu'il me semble que tu es dans ton implication dans toutes ces questions d'infrastructure numérique et notamment dans tous les travaux qui touchent à la couverture mobile. Tu as un rôle essentiel. Donc, on est à ton écoute.
Les collectivités ont un rôle important avec les autres acteurs. Non, simplement, ce que je vais trouver intéressant à écouter les personnes qui étaient autour de la table ce matin, c'est qu'on partage une même ambition, chacun dans le respect de nos intérêts propres. L'aménagement du territoire, les enjeux économiques, les enjeux de mobilité, etc. Et c'est normal de respecter les attentes des uns et des autres mutuellement. Ça, c'est le premier point. Au passage, très rapidement, j'ai noté qu'il y avait des gares qui ne pouvaient pas être fibrées. Ça, je ne sais pas, on vous fera ça, il n'y a aucun problème au niveau des RIP, on est particulièrement performant. Je pense qu'on pourra le faire sans problème. Concernant l'intervention de Juliette et de Bouygues, on partage la croissance, la qualité, la résilience, avec des remarques, et là je fais référence à Patrick Chaise et à l'AVICA, concernant le Avant même l'évocation d'un nouveau New Deal, que nous puissions obtenir le bilan d'un New Deal. Nous avons eu un moment assez délicieux tous les deux à Bercy à ce sujet-là. Je maintiens cette demande de ce bilan. Ça semble avoir été entendu par l'État. Reste à voir ce qu'il en sortira. Mais c'est un enjeu important pour nous. Enjeu également important qu'on voit poindre sur les territoires et qui remonte très fortement des communes, c'est la question de la mutualisation des pylônes. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de demander une amélioration de la couverture d'un côté et puis de crier lorsqu'on se retrouve avec 2-3 pylônes sur une même parcelle à 50 mètres d'écart. Or, c'était la réalité en zone périurbaine, ça devient la réalité en zone rurale. Nous sommes dans l'incapacité de demander aux opérateurs une justification qui dépasse le cadre d'une réponse. C'est une contrainte technique. Moi, sincèrement, ça peut intervenir dans certains cas, mais je pense que c'est un enjeu qui est lié à l'arrivée des towercos sur le marché et qui fait qu'aujourd'hui, un pylône a sa propre existence en termes de foncier. C'est une inquiétude parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de maires refusent de signer la deuxième, voire la troisième déclaration préalable et se retrouvent au tribunal administratif. Et naturellement, il perd, puisque au droit de l'urbanisme, ça marche. Concernant la 5G, petit point d'attention, nous ne voudrions pas, les collectivités, revivre ce que nous avons connu dans le cadre du New Deal sur le basculement à la 4G, parce que ce basculement à la 4G, j'avais l'habitude de le dire à l'époque, a consisté à arroser là où c'était déjà mouillé. C'est-à-dire que le basculement en 4G s'est fait dans les zones urbaines et périurbaines, pour des raisons qu'on comprend, évidemment, hein, mais qu'en termes d'aménagement du territoire, on n'entend pas. Et aujourd'hui, on sait que la 5G sera partout, mais le cadencement nous paraît quelque chose qui est intéressant. Et puis, je vous remercie sur les apports techniques que vous avez pu apporter, que ce soit effectivement sur les notions de trafic montant. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On comprend les difficultés que ça peut représenter. J'ai bien noté le monitoring de la qualité des services et il serait souhaitable que ce monitoring puisse être mis à disposition du public assez largement en termes de concurrence. Je comprends que ça peut être gênant pour vous, mais au même titre que l'ARCEP communique l'état des antennes, il y aurait un enjeu. Et pour terminer, les constellations de satellites, effectivement, vous avez raison, le véhicule, le smartphone, il y a des enjeux derrière importants qu'on doit tous avoir en ligne de mire. Donc, enfin, moi, j'ai apprécié les interventions des trois personnes qui étaient là.
Merci à tous. Il est 12h29. Il nous reste une minute pour une toute petite question. Mais petite. Alors, déclarez-vous. Ah, je vois une main qui se lève. C'est court. Oui.
Ça marche.
N'hésitez pas à vous présenter.
Je travaille pour l'ARCEP en tant que chargée de mission. Comme une fois qu'il n'y a pas de questions, j'en profite. L'ARCEP a publié vendredi dernier une note « Choisir son numérique », très intéressante dans le cadre des réseaux du futur, qui interroge un peu pour la première fois les usages, les nouveaux usages. Et du coup, j'ai une question pour Madame Lallemand. Est-ce que chez Bouygues Télécom, vous interrogez un peu aussi sur ces nouveaux usages? On a vu qu'il y aura une explosion du trafic mobile montant et descendant dans les années à venir, mais est-ce que vous avez cette réflexion en interne sur un peu le sens ou à minima la sobriété nécessaire de ces nouveaux usages, parce qu'on va faire face à des limites voilà. Ou alors est-ce que vous estimez que ce n'est pas du tout votre rôle?
Ok, merci. Allez,
si, bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué, il me semble. On voit les évolutions, les tendances, on les suit, on a des projections de croissance de trafic dans les années qui viennent et on dimensionne et on prépare le dimensionnement de nos réseaux en conséquence. Donc oui, bien sûr, et j'ai parlé de notamment l'intelligence artificielle qui consomme de plus en plus de bandes passantes. Aujourd'hui, on voit que les clients font des choses assez simples. Ils posent une question à l'IA, elle répond. C'est un mode transactionnel, mais demain, on sait que ces questions, ce sera aussi des demandes sous forme de vidéos, avec des réponses vidéo. Et donc là, ça consommera plus de bandes passantes. On voit tout ça et on s'y prépare, bien sûr.
Très bien. Il est plus que l'heure. Je remercie nos quatre intervenants de nous avoir partagé leur regard et leur expertise. Je pense qu'on peut les applaudir.